de telle sorte que, par leur présence, ils puissent diffuser non pas seulement la parole de la Bible, mais l'identité de référence qui fait que cette parole a un sens. Et à partir du moment, je crois, enfin j'ouvre encore une parenthèse subjective, à partir du moment, je crois, où c'est pas parce que le juif est présent que le non-juif entend la Bible, le juif n'a plus rien à faire à l'extérieur des frontières. Si c'est d'une autre manière que vous comprenez ce jeu. Il n'y a plus aucun rôle à jouer dehors. Pour revenir à notre problème, on pourrait donc, je vous disais, faire ces analyses qui démontrent que la loi morale prise au sérieux ne peut pas procéder de la pensée humaine. Toutes les sociétés ont essayé. Et le résultat a été ce que l'on appelle, d'une façon globale, le déréféré, c'est-à-dire non pas le moral dans le sens du salut, tel que cela est entendu corollairement à la notion de la création, mais le coutumier des mœurs de telle ou telle société pour l'aménagement de la vie terrestre. C'est pourquoi vous trouvez tellement de catégories dans cette étude du contenu de la révélation, c'est-à-dire dans le Talmud, qui disent que même si la décision du tribunal apparaît comme étant identique, lorsque la conscience hébraïque, lorsque la conscience juive en tant que telle, c'est-à-dire préoccupée de la morale, de la loi morale en vue du salut, a un procès à débattre, c'est devant un tribunal de la Bible qu'elle doit porter son procès, et non pas un tribunal des nimusim, c'est-à-dire un tribunal des coutumiers de mœurs, tels que les sociétés humaines les ont formulées à partir de la pensée humaine, et non pas tels que Israël la reçoit à partir de la révélation du Créateur. On pourrait, je vous donne ici une illustration de détail, on pourrait être étonné de cette spécificité poussée à une telle extrême de chauvinisme. Chaque fois que la Torah dit, parlant la loi, parle aux enfants d'Israël, d'Aver le Béné Israël, ou Tsar le Béné Israël, ordonne aux enfants d'Israël, Ve'ere Amishpati Mashetasim Lifnehem, Lifnehem Velo Lifneo Motarolam, et que le commentaire introduit tout de suite cette notion, ce n'est pas devant n'importe quelle identité humaine que le problème de la réponse à la question morale doit être posée, même si, à la suite d'une analogie, la réponse sera analogue. Parce que le souci est différent, parce que la préoccupation est différente. La préoccupation est quelle est la loi morale de telle sorte, non pas d'aménager la société terrestre, cela est second, mais de telle sorte de réaliser la destinée de créature et de rendre compte de l'être reçu par la créature devant le Créateur. Et c'est cela l'objectif de l'élaboration talmudique de la loi morale, et c'est cela ce qui sous-tend l'exigence d'absolu, dans quelque valeur que ce soit, justice, surtout justice, mais enfin justice, charité, égalité, tout ce que vous voulez, qui travaille les juifs, même lorsqu'ils ont été coupés au niveau de la conscience claire, des contenus de la révélation hébraïque, et tant que leur identité est présente, eh bien, leur manière de réclamer la justice, ou quelque valeur que ce soit, a toujours un aspect radicalement autre que celui des générosités analogues que l'on trouve chez les moralistes non-juifs, parce que le souci préalable de la conscience hébraïque était que la morale est la voie du salut, et pas seulement l'aménagement de la vie en société. Je sais que cela est difficilement formulable, mais je crois qu'il y a là un point important. La manière dont les héros de la moralité, lorsqu'ils sont d'origine de la tradition juive, clament l'exigence de justice à une autre tonalité que la manière de cette exigence de justice telle qu'on la trouve chez les autres. Ça ne veut pas dire qu'elle soit moins sincère chez les autres, ça ne veut pas dire qu'elle soit moins réelle, moins authentique, mais elle n'a pas cette... il lui manque cette espèce d'exigence d'absolu qui vient de la conviction hébraïque que la morale, c'est pas que la morale, mais que la morale, c'est la voie du salut du cosmos, enfin je veux dire de la création, à l'échelle cosmique, religieuse, et non pas seulement à l'échelle d'une législation pour une société donnée. Bien si, même si, dans la forme et dans le résultat, cela ressemble par analogie. Est-ce que vous comprenez ce point ? Alors donc, la notion de création en Abraham appelle la notion de révélation en Moïse, et à ce niveau, c'était la révélation de Dieu lui-même et de sa parole, mais nous ne sommes plus préoccupés centralement que de l'étude de sa parole, à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'où l'évidence dominante de la préoccupation législative lorsque le juif traite de la moralité. Et puis la troisième étape est celle de la rédemption. Ça veut dire, de la même manière qu'Abraham appelle Moïse, Moïse appelle le Mashiach. Et la catégorie de la révélation, c'est la catégorie de la promesse. Et par définition, une promesse est révélée de l'extérieur, de la conscience de celui qui la reçoit. C'est cette promesse que la loi morale sera efficace. C'est cette promesse que la troisième étape de l'histoire apparaîtra, c'est-à-dire la réussite de la loi morale. Et c'est-à-dire que le Messie viendra. Mais que le Messie viendra dans le sens que la loi morale triomphera. Et cela, c'est la catégorie de la rédemption. Là aussi, nous pouvons avoir les analyses qui démontrent que cette catégorie de la rédemption est impensable à la pensée humaine. Et la pensée humaine, livrée à ses propres forces, n'a aucun exemple, n'a aucune assurance que le salut soit possible. Nous sommes jetés, s'il n'y a pas de révélation, nous sommes jetés dans un univers qui n'a pas de rédemption. Nous sommes jetés dans un univers qui ne donne pas l'expérience du salut, sinon par chance, par coïncidence. Nous sommes jetés dans un univers dramatique. Et la pensée humaine, ou tragique, la pensée humaine ne dispose pas de cet optimisme qu'en dépit des apparences, le salut est possible. Être sérieux comme intellectuel dans le monde non hébraïque, c'est ne pas accepter le caractère vraisemblable de l'idée d'une rédemption. Rédemption, ça veut dire que finalement le chaos du monde sera fini d'être achevé, d'être mis au point. Enfin, que finalement le monde des béatitudes finira bien par germer. C'est une folie de penser cela pour la raison, si la raison se prend au sérieux. Un intellectuel non-juif n'est pas sérieux s'il croit en la rédemption. Alors, vous comprenez pourquoi les intellectuels non-juifs ne prennent pas au sérieux les intellectuels juifs qui y croient. Parce que c'est évident que c'est pas en tant qu'intellectuel qu'ils y croient. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est bien évident qu'il s'agit là d'une catégorie qui vient de l'extérieur, de l'expérience humaine livrée à ses propres forces. Lorsque l'homme se connaît sérieusement, il se connaît comme perdu, non pas comme damné, comme perdu, parce qu'il est dans un monde où tout lui renvoie l'expérience de l'échec. L'expérience de... je ne parle pas seulement des grands thèmes, la mort, la souffrance, mais l'impossibilité de réussir quoi que ce soit qui réussisse, si j'ose dire. Et par conséquent, effectivement, il s'agit là de trois catégories qui s'organisent entre elles, d'où les trois aspects de notre littérature, la réflexion sur les attendus du créé, la réflexion sur les attendus de la moralité et la réflexion sur les attendus de la messianité. Et ces trois notions ont le même caractère, qu'elles procèdent d'une expérience d'ordre moral, qu'elles ne sont intellectuelles que secondairement et qu'elles se présentent comme n'étant pas constitutive de la pensée humaine naturelle, mais comme étant le résultat d'une révélation, ce qui fait de l'identité qui les formule une identité à part à l'intérieur de l'humanité, cette spécificité universelle, si j'ose dire, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà dans quelle perspective le problème d'une introduction à la pensée juive est authentique. Bien entendu, ça peut être dit d'une autre manière. Ça peut être articulé d'une toute autre manière. Il peut y avoir une autre méthode, un autre style, tout ce que vous voudrez. Je vous donne le résultat de ma propre formation dans cette analyse, et c'est grosso modo l'école qui se formule à travers l'enseignement de Judas Lévi, puis le Maharal, puis le Rav Kook. Et avec tout ce qui va avec, mais dans cette constellation-là, et avec tout le reste, mais à l'intérieur de cette qu'à ce type de formulation. Il peut effectivement y avoir d'autres écoles tout aussi cohérentes, avec d'autres filières, avec d'autres avenues, avec d'autres voies royales. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est dans ces attendus-là que le problème d'une introduction à la pensée juive est cohérent. Hors de quoi nous sommes renvoyés au brouillamini que je vous décrivais tout à l'heure, à cette espèce de confusion des trois points de vue, le point de vue philosophique de l'éclairage culturel de la question comme question, le point de vue exégétique qui finalement débouche, lorsqu'il est coupé de l'essentiel, uniquement dans une archéologie des textes anciens, et puis le point de vue de la sagesse, de la compréhension, de la signification, qui, s'il est coupé de cette cohérence, fait basculer dans une mystique fantomatique qui n'emploie que par analogie les mêmes termes de ce que les Hébreux ont parlé. Est-ce que vous comprenez? Et donc la méthode était bien évidemment de savoir. Lorsqu'on s'engage dans cette aventure, dans ce projet, qu'il faut employer des instruments d'investigation différents, suivant que l'on réfléchit à la question qui va se poser, suivant qu'on la pose aux Hébreux, de savoir vraiment ce que les Hébreux ont dit, à travers leurs textes et les vôtres, juifs, et puis d'en avoir compréhension, est-ce qu'en fin de compte, l'identification ne peut se faire que par la méthode de la tradition orale, bien évidemment. Bon, voilà l'analyse que je voulais vous présenter. Bien entendu, je vais vous donner la parole, si vous l'avez encore. Et puis alors, demain nous aurons donc une étude de Talmud, une phénoménologie du mariage, et puis après-demain nous aurons donc une phénoménologie de la prophétie dans le texte. Ah oui, on a oublié de vous dire que l'étude talmudique se fera demain à 9h, mais au séminaire, pas ici, c'est-à-dire 9 rue Vauquelin, à l'école rabbinique. Bien, vous avez la parole si vous avez des questions. Et puis, ne soyez pas à voir. Moi, je vous ai parlé, vous pouvez me parler aussi. Bien, authenticité de la créature au niveau du premier homme. Le premier homme se connaissait comme créature. Et par conséquent, quoi que ce soit de cela a passé à travers toutes les lignées après la chute. Et par conséquent, tous les paganismes avaient quand même recueilli en quoi que ce soit des souvenirs de cette mémoire de la première authenticité. De la même manière qu'aujourd'hui aussi, toutes les pensées qui nous entourent sont, en quoi que ce soit, imprégnées aussi de la pensée biblique. Il y a en quelque sorte une espèce de clair-obscur dans ces distinctions que nous faisons méthodologiquement. Un non-juif d'aujourd'hui n'est pas que non-juif, il est aussi un peu juif parce qu'il a lu la Bible. Vous comprenez? De la même manière, un pré-abramique n'était pas que non-abramique, il était aussi un peu pré-abramique, puisqu'il descendait d'Adam. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut peut-être le penser. Mais surtout, c'est que le Dieu auquel croyaient ces sociétés-là n'était pas le Créateur. C'était un Dieu fabricateur de l'homme, et devant qui il fallait rendre compte par un minimum de moralité et être sauvé. Mais ce n'était pas le Créateur dans le sens biblique. C'est-à-dire que l'être que nous possédons nous est donné par un être autre que le monde. Alors que tous les dieux de ces religions étaient des réalités du monde. Et ils n'ont jamais été connus comme créateurs vraiment, mais comme fabricateurs. Je ne sais pas, on pourrait analyser, mais c'est très différent. Pas? De la même manière que l'homme, lorsqu'il veut, par orgueil, se mettre à la place de Dieu comme créateur, redevient païen, même lorsqu'il est laïcisé. L'homme n'a jamais pu que fabriquer quoi que ce soit qu'il ait fait. Il n'a jamais créé. C'est toujours Dieu qui crée, à travers même l'œuvre de l'homme. Comment vous dire? Même lorsque le plus grand artiste, homme, peut-être vient de là, la méfiance vis-à-vis de la forme artistique de la conscience hébraïque, fait une œuvre, et là je dis fait dans le sens latin du mot fecit ou grec de qui va donner poète, poiein, il fait, il fabrique, hein, mais le créer, l'irruption à partir du néant, qu'il y ait un être autre que quoi que ce soit du monde qui soit le créateur du monde, Haboré, comme nous disons en hébreu, eh bien, cela n'a jamais été connu des autres religions que la religion hébraïque. Là, il y a quelque chose de radical, de radicalement différent. Alors, la moralité a aussi une tonalité radicalement autre, parce qu'il s'agit vraiment du salut du monde en tant que fait du néant, et non pas seulement de l'aménagement des intérêts moraux, si j'ose dire, c'est-à-dire de l'apaisement de la conscience. Il y a aussi cela chez nous, mais c'est très second. Le souci moral est d'ordre religieux. Je voudrais en donner un autre éclairage. Donc, en comparant la notion de faute dans une morale non hébraïque et dans une morale hébraïque. Et la notion de faute dans une morale, disons, laïque, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de sérieux, on a violé la valeur et c'est grave. Hein? Mais la notion de faute dans le vocabulaire biblique prend une toute autre dimension. Et c'est pourquoi elle appelle la notion de rédemption. C'est qu'on a obligé Dieu à faire le mal, que Yahou, par façon de parler. Puisque rien ne peut être si Dieu ne l'a pas, ne lui a pas donné l'être. Et quand moi, la créature, je fais le mal, en fin de compte, je rends, sinon coupable, mais en tout cas à la limite responsable, le créateur. Alors, la conscience hébraïque est prise de panique devant la faute, parce qu'elle a l'handicap Dieu lui-même. Est-ce que c'était trop ramassé? Ce qui fait qu'à la limite, dans tout pardon qui se donne, il y a aussi un pardon donné à Dieu. Dans la liturgie du pardon. Et c'est en particulier pour ceux qui sont au courant de ces dimensions, le sacrifice de Rosh Chodesh. Hebiou kapara alai. Parce que finalement, quelques dérangements qui est dans le monde, et bien entendu, moi je suis responsable. En fin de compte, à la limite, dans l'univers de pensée hébraïque, j'en rends Dieu finalement créateur. Et c'est pourquoi ça prend un aspect d'autant plus angoissée la faute dans la conscience hébraïque. Très souvent, lorsque les non-juifs traitent de la conscience pharisienne, qu'ils mettent entre guillemets, n'arrivent pas à percevoir la profondeur du scrupule du pharisien par rapport au manquement à la loi. Parce qu'il s'agit de la loi de Dieu. Et c'est pourquoi ça va si loin, dans l'inquiétude de là. Alors, bien entendu, il faut manier ce concept avec beaucoup d'humour. Parce que bien entendu, c'est la loi de Dieu, et c'est donc pourquoi angoissant, mais c'est la loi de Dieu. Et alors, on n'est pas perdu, heureusement, puisque c'est la loi de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. La coutume des Juifs.
Mais la coutume, c'est pareil.
Oui, bien. Si j'ai bien compris votre question, il s'agit de la coutume des Juifs. Elle vient ensuite faire corps avec la loi. Parce qu'il s'agit de la coutume qui procède de l'identité du problème moral, et pas d'une autre identité humaine. Mais je m'excuse encore du caractère carré du vocabulaire. Mais enfin, j'explique, je ne sais pas si ce n'était pas suffisamment clair. Quand vous avez par exemple cette expression que le minhag, c'est ça que vous avez traduit comme coutume, prend force de loi, c'est-à-dire va avoir une autorité analogue à celle du din Torah, à celle de la règle de la Torah. Et bien là, nous abordons l'autre aspect du problème, tout l'aspect Torah Shebaalpeh, tout l'aspect du chidush, qu'Israël apporte et incorpore à Torah Moshe. Et lorsqu'on dit effectivement que dans tel ou tel cas, la déduction que l'on pourrait faire de ce que implique la loi mosaïque serait une donnée A, disons, et puis voilà que on voit que les Juifs, mais pas n'importe quel Juif, les Juifs de la Torah ont coutume d'agir à ce propos de cette manière. Le fait que ce soit leur coutume, c'est sa Torah. Voilà ce que l'on veut dire. Et bien entendu, on ne dit pas cela de n'importe quel minhag. On ne dit pas ça de n'importe quelle coutume. On dit cela de la coutume des Juifs. Lorsque, par exemple, on a parlé un peu de ça hier, je voudrais reprendre cela à l'étude que nous avons eue hier matin. Lorsqu'on dit que, lorsqu'il y a une question nouvelle à trancher, et on ne sait pas comment le prophète nous aurait dit que la loi dit, par exemple, ce grave problème, c'était la question d'hier matin, pour ceux qui étaient là, ce grave problème d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut décider dans le problème Israël-Diaspora? C'est un problème qui est renvoyé au choix en ordre de chacun, enfin, je veux dire à la décision de la liberté de chacun. Parce que, quels que soient les motifs pour, il y a des motifs contre, mais toujours dans le sens de la vérité de la loi. Vous comprenez, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et alors, il est bien évident que pour trancher dans une halakha de ce genre, pour un sac de ce genre, il nous faut une autorité qui dépasse notre capacité de raisonnement, puisque chacun, avec la même sincérité, la même authenticité traditionnelle et juive et hébraïque, pourrait avoir une conclusion différente. Bon, vous savez comment j'ai choisi, mais on pourrait choisir autrement. Attendez, je reviens. Alors on a cité que lorsqu'on est dans ce cas, et qu'on ne sait plus comment la loi dirait, dans un psaque, une décision tranchée où il y aurait à la Ratsuka, alors il faut aller voir comment font les juifs, aller dans la rue des juifs. Alors, c'est pourquoi hier j'ai répondu, dans quelle rue et de quel juif, qui, vous comprenez. Lorsque, pour vous donner un autre exemple, quelle coutume, parce que ici par exemple, on dirait la majorité des juifs est restée en diaspora, donc c'est peut-être que la halakha est comme ça. Ça ne suffit pas comme argument. Je vous donne un autre exemple. C'est le problème de la démocratie dans la directive talmudique. C'est vrai qu'il y a démocratie absolue dans la directive talmudique, mais c'est la démocratie de qui? C'est pas la démocratie de n'importe quel juif, c'est la démocratie des talmudei chacham. Quand par exemple il y a une discussion dans le Talmud, un tel dit c'est comme ça, il a le droit, c'est Torah. Un tel dit c'est autrement, il a le droit, c'est Torah. Et puis finalement, on va prendre démocratiquement l'unanimité qui ressortirait d'une majorité. Mais c'est la majorité de qui? C'est démocratiquement. C'est vraiment un collège. Mais c'est le collège de qui? Pas de n'importe quel lecteur de la Bible, pas de n'importe quel penseur juif, pas n'importe quel intellectuel juif, plutôt français. C'est le collège des Talmidei Chachamim. C'est le minhag des Talmidei Chachamim. Vous comprenez? On ne dira pas ça de minhag Borout. Eh bien, on dira ça de minhag du Talmidei Chacham. Alors, cette règle est vraie. Lorsqu'on ne sait pas comment il faut faire, et bien on demande aux juifs comment ils font, on fait comme eux. Mais quels juifs? Voilà, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment en plein désarroi. On va demander pour telle ou telle question qu'il faudrait. Par exemple, pour vous donner un problème concret de nos familles maintenant, est-ce qu'il faut que nos filles fassent le service militaire ou pas en Israël? Alors, si vous allez demander aux juifs. Mais si vous allez à Bnei Brak, on vous donnera une réponse. Si vous allez dans tel quartier de Tel Aviv du Nord, dans tel quartier de Maharib du Nord, dans tel quartier de... Alors, comment faire? Et je crois que toutes les questions de la société israélienne sont aujourd'hui dans ce cas. Chacun a son chemin à eux. Pour les questions nouvelles qui se posent à propos d'une société et non plus à propos d'une communauté. Attendez, c'est pourquoi je pense personnellement, et je vous en sers comme conclusion provisoire, qu'on va aller d'impasse en impasse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule possibilité pour le Messie, c'est de venir nous dire comment il faut faire. Mais je crois que ça va aller. Non, mais c'est très sérieux. Je crois que ça va aller de plus en plus mal, de ce point de vue-là, dans le désarroi et dans la difficulté, parce qu'effectivement, il faudrait pouvoir décider à la manière talmudique, mais c'est peut-être déjà un ordre de questions et un temps, parce qu'il y a une société israélienne et plus seulement des communautés juives de défense, c'est la même chose, où on ne pourra plus décider à la manière talmudique, il faudra décider à la manière kabbaliste, si j'ose dire, c'est-à-dire résoudre le tekou. On y est vraiment arrivé, qu'on a besoin de l'autorité messianique. Pour donner la halakha dans cette ordre. Vous savez, finalement, pour décider, est-ce que cette viande est cachère ou pas, même si nous avons des minhagim différents de genre de juif à genre de juif, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est cachère. Puis c'est cachère pour l'autre. Mais il y a des questions où on est obligé de décider de telle sorte que si c'est cachère, pour l'un, c'est pas cachère pour l'autre. Vous comprenez? Alors, ce genre de psaque qui disqualifierait ceux qui ne sont pas de cet avis, personne n'a le droit de le donner sauf le Messie. C'est évident. On en est arrivé là pour le problème du Gius Banot. Enfin, de savoir. Chacun a étudié la question avec ses rabbins et suivant son état social, suivant son genre de famille, son genre de vie, a décidé dans une halakha possible. Parce qu'il y a aussi des halakhot impossibles. Les envoyés FKR, ça c'est halakha impossible. Mais pour avoir vraiment un psaque qui soit unanime de la nation, si j'ose dire, eh bien nous sommes à un stade où plus personne ne peut dire c'est ma halakha qui sera la halakha pour tous. On attend la halakha du Mashiach. Et alors, j'ai un peu réfléchi à cela de cette manière-là. Ça me paraît un peu mystique, mais tant qu'on a commencé, on peut continuer. Si j'ose dire, on est mystique depuis Abraham, dans ce sens-là. Que ça ira de mal en pis. Ça ira, il va y avoir une comment dire, un, plus que des impasses, un chaos à ce niveau, de plus en plus grave, jusqu'à ce que ça se dénoue. Et ça ne peut pas se dénouer, ça peut pas se dénouer autrement, parce que je ne crois pas que la société juive se condamne au suicide. C'est jamais arrivé. Je ne crois pas que la société juive se condamne au suicide. C'est jamais arrivé. Par conséquent, si quoi que ce soit en quoi elle a cru et sur quoi elle a persévéré, c'est vrai, le Messie vient. La formulation est mystique, mais le contenu ne l'est pas. Je vous citerai un enseignement du Rav Nachman Levi de Jérusalem, qui est un des kabbalistes contemporains, et qui l'explique de la manière suivante. Je crois que j'avais cité ça peut-être vendredi soir sous une autre forme. Il a cité le verset Vera Oret Saita Tohu Vagohu, Vera Elokim Al Pene Amaim, Vera Elokim Yayo Vayor. Ces étapes-là. C'est-à-dire, toute l'histoire de la création est l'histoire d'un engendrement à partir du chaos, à partir du néant, mais d'une organisation du chaos. Et que déjà la Torah nous a donné le modèle, le principe. Lorsqu'il y a émergence de cet engendrement, et nous sommes dans ce temps de résurrection, après la Shoah, c'est évident que. Il y a eu ces deux étapes, il y a eu les douleurs de l'enfantement, et elles continuent, mais l'enfantement commence. Eh bien, qu'il y a d'abord un chaos au niveau de la terre, et ensuite qu'il y a une espèce d'asymptote au niveau de l'esprit, l'esprit volette, ça veut dire il nous touche et il ne nous touche pas. J'ai pas traduit le verset. Et la terre était chaos, et l'esprit de Dieu voletait à la surface des eaux, et en fin de compte, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière. Et dans tous les processus historiques de ces thèmes de l'identité dans notre histoire, depuis le premier homme, à travers l'histoire des Hébreux, nous avons toujours ce processus-là. Il y a d'abord la mise en ordre du chaos terrestre, matériel, le plus fondamental, corporel, charnel, national, hein, purement et simplement. Et puis pendant ce temps-là, il y a l'annonce que quelque chose va être compris. Et puis ensuite seulement la lumière viendra. Alors je ne sais pas du tout à quel stade on est, mais enfin le point est très clair. Nous sommes encore au stade, si vous voulez, que Eretz Tohu Vavohu, Eretz Sejet Israël. C'est encore Tohu Vavohu, c'est encore dans ce stade-là. Et puis les autres stades arriveront. Alors je explique de la manière suivante, et là on revient à des choses, une illustration plus précise. C'est que nous avons trois étapes, finalement, dans ce processus, Nefesh, Ruach, Neshama. Il a d'abord fallu reconstituer le Nefesh d'Israël, qui était dans le Keber, nous étions comme un Nefesh de Keber, dans l'exil. Et ce Nefesh s'est constitué au moment où, effectivement, le peuple juif dans son ensemble a pris conscience que, quelle que soit son idéologie, un événement était arrivé et qu'il fallait en tenir compte, qu'il y avait de nouveau un état juif. Et ça, c'est l'émergence du niveau Nefesh. Le peuple juif s'est reconnu comme nation juive. Ça continue à prendre du temps pour certains, mais c'est fait depuis 1948. Et première caractéristique, ça nous a été imposé. Le monde juif dans son ensemble ne pensait pas à cela, ne voulait pas cela. Ça a été imposé par l'histoire. Qu'à partir du moment où il y a un État juif, il y a un État juif pour le peuple juif tout entier, qu'il le veuille ou pas, qu'il soit contre ou pour, et l'humanité s'est déjà, elle, habituée à cela plus vite que nous. Et puis, deuxièmement, la deuxième étape, c'est l'étape d'Eretz Israël, et ça s'est arrivé en 67. Les événements nous ont imposé Eretz Israël, dont on ne voulait pas. On voulait un petit État juif qui était l'État de Tel Aviv. Et puis, on ne voulait pas de Jérusalem, on ne voulait pas des territoires, on ne voulait rien, on ne voulait pas. Et puis, ça nous était imposé. Et avec le problème qui s'y greffe, on ne s'en sort pas, même pas nous, on ne s'en sort pas. Même pas nous les Juifs, on n'a pas de solution. Personne n'a de solution. Et ça nous est imposé. Et ça, c'est la deuxième étape. En Israël d'abord, et ensuite, Eretz Israël. Et maintenant, on est déjà à la troisième étape, Torah Israël. Personne n'en veut. Ben, ça nous sera imposé. On ne sait pas comment, mais ça arrive. Je vous cite le Rav Nachman Levi. Il dit voilà, en 1948, c'était en Israël. En 1967, c'était Eretz Israël. Et c'est pas paradoxal, c'est pas en 48 Eretz Israël et en 67 en Israël. C'est bien dans cet ordre. Puis maintenant, il manque le troisième stade. Et il a dit, il y en a encore d'autres. C'est Torah d'Israël. Eh bien, on attend. On ne sait pas par quel événement, mais on sent déjà cela. La société israélienne est par rapport à sa propre identité spirituelle dans un tel état de chaos que ça ira encore plus mal, mais qu'il y aura une limite et que un 48, un 67 arrivera. Je ne peux pas vous donner la date, personne ne la connaît. Mais on ne sait pas par quel moyen. Et quand ça arrivera, on se dira, c'était si simple que ça. C'est-à-dire que la Torah sera souveraine en Israël. Non ? Et pour répondre à votre question de Minag, et je crois d'ailleurs que les plus angoissés qu'il y ait du Torah en Israël, c'est pas tellement les datim, c'est les lozakim. L'exigence viendra d'eux. Lorsqu'ils sont en train de plus en plus, et ça ira de plus en plus loin, de se rendre compte que sans ce qu'a été la Torah pour Israël, l'État d'Israël risquerait le suicide. Et alors, bon, un juif de la diaspora peut se passer de la Torah, mais un Israélien ne pourra pas se passer de la Torah. Parce qu'un juif de la diaspora peut s'assimiler, mais un Israélien ne peut pas s'assimiler. Ça veut dire devenir quoi ? Vous comprenez ? Alors, votre question de la manière suivante. Et en prenant pour exemple l'identité humaine elle-même. Nous ne sommes pas libres de notre identité humaine. Ce dont nous sommes libres, c'est de notre équation personnelle. Eh bien, c'est assez analogue. Nous ne sommes pas libres de faire que la pensée juive soit autre que ce qu'elle est. Ce dont nous sommes libres, et c'est d'ailleurs au niveau de l'identité humaine aussi la seule liberté que nous avons, c'est de notre équation personnelle, c'est-à-dire de notre style de Torah. La Torah, nous ne pouvons pas la changer, pas plus que nous pouvons changer l'identité humaine. Mais ce que nous pouvons faire de nous-mêmes, c'est tel homme génial en lui-même. Et bien de la même manière, et ça c'est la part de la dignité, de la liberté de l'individu qui est de chacun, mais à l'intérieur de l'authenticité, de la même manière, notre tradition nous dit déjà, chaque homme a sa Torah, mais sa Torah de la Torah, c'est-à-dire son style, son chidouche, son génie individuel. Alors je comprends bien votre question. Est-ce que c'est une vraie liberté ? C'est-à-dire de n'avoir à sa disposition qu'une manière spécifique d'un tout imposé. Mais c'est pourquoi j'ai commencé par vous répondre, c'est pas plus invraisemblable que le fait de l'homme. Je suis homme et pas artichaut ou champignon. Et de ça je suis pas libre. Mais je n'ai jamais réclamé contre cette non-liberté. Si je veux être homme, c'est homme que je dois être. Mais je veux être homme à ma manière. Mais il faut que ce soit une manière d'homme. Si, vous comprenez ce que je veux dire ?
Mais vous avez dit justement que la pensée de l'homme est en fâchée.
Non, mais parce que. Entre temps, je pensais que vous aviez déjà, vous, dans votre raisonnement, identifié les deux choses. Je m'explique. C'est-à-dire que j'ai deux éventualités. Ou bien être homme non hébraïque, non juif, c'est-à-dire en langage de la tradition, païen, qui soit croyant. D'une religion magique, ou laïque, ou philosophe, non touché par ce phénomène de la pensée juive qui réassume l'authenticité humaine. C'est une prétention, si on ne s'explique pas. Mais ce n'est pas une prétention, c'est le résultat d'une tradition qui existe et qu'on ne peut pas annuler. Eh bien, dans ce bénéfice-là, la question est à deux niveaux. Est-ce que je vais choisir d'être que homme comme les autres, et je le serai à ma manière, c'est ça ma liberté. Ou bien, deuxièmement, est-ce que je vais choisir d'être juif ? Et à ce moment-là, de découvrir que il y a Torah, Hat, c'est la pensée juive a une cohérence. Et mille styles, enfin mille, des millions, autant d'individus qu'il y a, à condition que ce soit à l'intérieur de cette authenticité. Je ne peux pas faire que la pensée juive ne soit pas ce qu'elle est, mais je peux faire que ma pensée juive soit ce qu'elle est, soit ce que j'en ferai. Et la pensée des juifs, c'est une toute autre catégorie. Attendez. Dans la pensée des juifs, il y a deux mondes. Il y a la pensée des juifs qui se veulent juifs, et qui veulent, parlant des choses de la pensée, parler de la pensée juive. Ça, c'est ce que nous appelons les maîtres de la tradition. Et puis la pensée des juifs, c'est-à-dire des hommes qui font partie de cet ensemble humain, qui sont d'origine juive, si vous voulez, mais qui veulent penser leur pensée individuelle à la manière des non-juifs. De cette pensée-là, nous ne parlons pas. Quoique, malgré tout, dans le fond des choses, il y a communication. mais c'est très secondaire. Vous comprenez, je veux dire, dans l'histoire de la, tradition de pensée juive, n'importe quel petit rabbin de Pologne ou du Maroc qui aura fait un chidou, c'est-à-dire un renouvellement de sens, sera intégré à la Torah. Mais jamais des penseurs considérables comme Bergson ou Spinoza qui sont en dehors. Et pourtant, ce sont des penseurs juifs, mais ce n'est pas des penseurs de la pensée juive. Vous voyez la différence, n'est-ce pas ? Et ils feront partie de ce que le judaïsme, le peuple juif a donné au monde de la pensée humaine. Et c'est des grandes choses pour la pensée humaine. Mais pour nous, c'est il n'y a pas de macombe, il n'y a pas de classe où mettre ça. Ça fera partie, en tout cas, si vous voulez, du premier point de vue dont j'ai parlé, de tout cet éclairage pré-philosophique pour comprendre la question comme question. Alors, toute cette pensée humaine peut être intégrée là-dedans. Ma condition d'être mise à sa place. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Par exemple, on a signalé, j'ai lu un article d'Alain Mandel il y a quelques mois, où il parlait de l'année du Hari. Vous savez que cette année, c'est le 400e anniversaire du Hari. Là, il a dit justement là quelque chose d'important. Voilà, cet État juif, qui apparemment, dans ses universités, se réclamera de Spinoza plus que du Hari. Et bien pourtant, il va décréter une année du Hari et jamais une année de Spinoza. Parce qu'il y a une espèce de sensibilité instinctive que Spinoza, ça fait partie de la pensée humaine en général. Bon, c'est un grand cadeau qu'on a fait au volume. C'est un cadeau, on est généreux. Mais que ça n'en serait pas dans la pensée juive sui generis. Alors que le Hari, que personne ne connaît, ou presque. Hein, à le Hari, on a fait une année nationale du Hari. Et qui donne les impôts pour ça, aussi les rédactives. Et ils sont fiers, nous avons le Hari. Enfin, j'ai dit ça. Alors, il nous faut une très longue familiarité pour arriver à distinguer. Parce que même dans Spinoza, au niveau de la recherche philosophique, il y a des catégories philosophiques que seul un juif était capable de formuler comme ça. Enfin, ça lui vient de son fond hébraïque. Vous comprenez ? Tout ça est très, très nuancé, délicat. La difficulté, c'est que lorsque nous abordons ce monde, c'est que nous sommes devant un brouhaha mini extraordinaire de choses différentes qui se mélangent. J'ai essayé un peu d'éclairer, de schématiser tout cela. Alors vous voyez à quel point nous ne pouvons pas répondre quand des intellectuels juifs qui ne sont pas de la tradition juive nous disent quand vous parlez de ces choses-là, eh bien c'est des histoires de synagogue, de religion, de bondieuserie, c'est votre foi. C'est pas sérieux. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas sérieux. C'est eux qui sont ignorants de ce dont ils parlent lorsqu'ils parlent des choses dont nous disons que nous y croyons. Parce qu'en plus, on y croit. Mais c'est un plus.
Le problème, finalement, de la reconnaissance de la tradition. Ce qui fait qu'en Israël, on en parle maintenant, on avait beaucoup d'ordre là-dessus.
Effectivement, je vous donne comme mon avis personnel, et je suis ignorant de la question, d'ailleurs, dans le fond. Il me semble qu'aucun tribunal rabbinique ne pourra, au nom d'aucune stratégie de la tradition juive cohérente, donner une solution qui pourra permettre à des mamzerim de se marier. C'est pas possible. Bon. Par conséquent, c'est une de ces questions dont nous n'avons pas la capacité de trancher. Et par conséquent, oui, il y aura de réponses vraiment que quand le Mashiach la donnera. Mais en attendant, il faut quand même aménager une vie possible. Nous savons que nous sommes avant la Torah du Mashiach. Nous sommes encore dans la Torah depuis la destruction du Temple. Bon, première réponse, elle est un peu a posteriori, elle est un peu en cercle vicieux. On n'a jamais demandé à un peuple juif d'avoir des mamzerim. Et alors, à partir du moment où il y en a, c'est pas la loi qu'il faut accuser, c'est les hommes. Alors, ceci dit, bien entendu qu'il faut une solution. Bon, il faut une solution israélienne. Une solution israélienne, peut-être, on va la trouver. Une solution juive, il n'y a pas. Aucune solution juive vous dira on peut marier des mamzerim. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire dire à blanc noir et à noir blanc. Alors, on ne peut pas demander au rabbin de dire. Pas plus qu'on peut demander à un médecin de dire qu'un poison c'est un remède ou un remède c'est un poison. Bon. Et on ne peut pas. Il y a des catégories que ACA et BCB. Qu'il faille qu'il y ait une solution israélienne, bon, c'est parce que nous, comme israéliens, on n'est pas encore assez intelligents pour la trouver. Mais la réponse au niveau juif, elle est ce qu'elle est, et c'est celle que les rabbins disent. Mais quand même, ça fait un problème qu'il faut trancher dans l'absolu, et de ce genre de problème-là, seul une Torah du Mashiach pourra la trancher. Je voudrais quand même ajouter une autre chose et vous donner un exemple d'un enseignement talmudique à ce sujet. Il y a deux manières différentes de s'approcher des difficultés de la loi. Soit en assumant la difficulté comme intérieure au problème qui nous est posé. Et incarner la loi morale dans le monde de la nature, c'est pas simple. Il y a des mamzeries. Vous comprenez ce que je veux dire? Il s'agit de la loi qui vient d'en haut et qu'on veut incarner en bas. Là, il y a des bavures. C'est clair. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Et il y a des difficultés énormes dans tous les détails. S'approcher de cette difficulté avec Kabbalah par Mahmoud Sanaïm, ça veut dire en assumant le problème, ça c'est une attitude. Mais s'approcher des difficultés avec une attitude anti-juive, ça c'est une autre attitude. Enfin, anti-Torah, ça veut dire sur ce anti-juive. Et je vais vous dire comment le Talmud dans un apologue traite de ce problème. Il y a un apologue qui dit que, un Midrash, qui dit qu'à la fin des temps, lorsque les goïms s'apercevront que la Torah c'était sérieux, alors ils diront à Dieu, ah oui, mais il y a même d'hommes, parce que c'est les Juifs qui ont reçu la Torah, alors les Juifs vont être sauvés, et nous, on n'a pas reçu la Torah. Donne-nous-la, nous, tu verras. Vous comprenez à peu près non, David Rabadazara. Il dit, donne-nous la Torah, et tu verras qu'on sera de bons Juifs. Bon. Alors Dieu dit, non, on ne recommence pas, hein. C'était sérieux, on ne recommence pas. Mais, je vais vous donner une session de rattrapage. Si vous voulez. Je vais vous donner une mitzvah. Une mitzvah, la soukha. Et là, une grâce continue dans la Gemara, il dit. Alors, Dieu va leur donner la soukha, ils vont se faire des soukha. Et c'est le club méditerranéen, camping, et ça. Et ils vont se faire des soukha. Et Dieu continue en disant, et Dieu va faire sortir le soleil de son orbite et les chauffer de manière telle qu'ils quitteront la soukha en claquant la porte. Bon. Alors, on a objecté contre cette Gemara. Dieu ne joue pas avec les créatures. Ou bien c'est une grâce sérieuse, mais il n'est pas sérieux. Et si déjà il leur donne la soukha, laisse le soleil tranquille. Tu leur donnes la soukha et tu les. C'est une kushya. Enfin, c'est un principe talmudique. Dieu ne donne pas un piège. Elle n'a même pas il n'y a pas de piège. Alors, qu'est-ce que ce midrash? Alors, il y a une kushya de halakha. Quand il fait trop chaud dans la soukha, on a le droit de sortir. Alors, qu'est-ce que tu dis qu'ils sont disqualifiés? La halakha. Il y a une différence. On sort en regrettant qu'il faille sortir. On sort pas en claquant la porte. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Israël? Il y a des gens qui trouvent qu'il fait trop chaud dans la soukha. Bien sûr, il fait trop chaud dans la soukha. Alors, s'il fait trop chaud dans la soukha, la halakha a décidé, on sort. Mais en regrettant de sortir, pas en claquant la porte. Eux, ils claquent la porte. Vous voyez, ça n'avait rien, mais c'est grave. C'est pas important. C'est pour ça que je disais, c'est l'antisémitisme.
Pendant des
moments plus avancés, plus standards, il y a que l'on prétend retrouver la conscience hébraïque. Oui. Est-ce que ce n'est pas une erreur, ne serait-ce que du point de vue psychologique? Que tout ce que l'on fera ne sera qu'une approche. Bon, c'est ça qu'on parle ce soir, c'est-à-dire qu'il y a un préalable. Il s'agit de savoir d'où on vient, où on va. Vous comprenez? Mais il bataille ou l'un intérieur.
On ne peut pas avoir des idées très relatives.
Non. Écoutez, quand on est avant la première étape, eh bien, il suffit de savoir que le chemin est long. Et ne pas prendre la première étape pour le point d'aboutissement.
Non, mais ce que je vous demande, est-ce que l'on peut modifier sa conscience?
Alors, attendez, je n'ai pas encore répondu. Je vous réponds à la fois comme un antisémite et comme... Écoutez, d'abord, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous avons beau être le produit de la culture occidentale, nous ne sommes pas tellement. Lorsque les anti-juifs disent que nous sommes pas tellement comme eux, eh bien, il reste toujours quelque chose qui fait que l'on est différent. Le vrai problème, c'est le problème du passage d'un homme de l'Occident à Israël. Et ça, c'est possible. Et c'est possible, peut-être, surtout dans cette méthode-là, d'abord avoir perçu ce que l'identité dit, et après les contenus intellectuels se formulent. Mais si on veut formuler les contenus intellectuels d'abord, avant l'identité, alors on les formule à l'occidental et on ne démarre pas. Et cela, c'est très difficile à exprimer. Mais c'est ce que le Talmud exprime dans L'exemple, c'est que plus grand est celui qui a Shimush Talmid Chachamim que Limud Talmid Chachamim. C'est-à-dire, plus grand est celui qui apprend de la personne du Talmid Chacham que de son enseignement. C'est ça que ça veut dire. Bon, alors, parce qu'effectivement, la personne, c'est la chose la plus ambiguë. Et voilà, c'est ça, c'est peut-être là qu'il y a la grâce, que la médiation de l'enseignement soit authentique. Ça, peut-être, c'est une grâce. Ça veut dire, quoi que la demande la vie, cette grâce, elle s'obtient. Celui qui dit j'ai cherché, j'ai pas trouvé, on ne croira pas. Celui qui dit j'ai pas cherché, j'ai trouvé, on ne croira pas non plus. Et celui qui dit j'ai cherché, j'ai trouvé, on le croira. Donc c'est possible. Je veux dire, tant qu'il s'agit de trancher pour l'orientation de sa vie individuelle, oui. Mais lorsqu'il s'agit de formuler de ce que la pensée juive est à l'échelle du magistère, là c'est autre chose. Vous savez par exemple qu'il y a une règle du Shulchan Aruch de la Halakha. Qu'on n'excommunie jamais quelqu'un pour ses erreurs. Même si c'est des erreurs de théologie, s'il est infidèle de la communauté, bon, on dit, il se trompe, il a une erreur, une faute, mais on ne va pas l'excommunier pour ça. Mais le Zaken Mamré, c'est-à-dire celui qui dit que c'est ça que la Torah dit, en tant qu'il enseigne au nom de la Torah, alors là, c'est autre chose. Et voilà, du coup. Mais je vous citerai la phrase de la Gemara de Kedushin.